Bonjour à vous tous et bienvenue aux personnes nouvelles qui sont avec nous aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous et de vous connaître. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Où est-ce que la vérité est prêchée? Où est-ce qu'elle est comprise le plus? Il faut que vous prouviez cela pour vous-même. Où est-ce que la vérité est enseignée? Ta parole est la vérité, dit le Christ. Et le Christ a dit, nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tout au long du Nouveau Testament, à plusieurs reprises, le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament en tant que la parole de Dieu, les Écritures. Le Christ en a parlé de cette façon-là et les auteurs des livres du Nouveau Testament l'ont fait également. Le Nouveau Testament l'explique clairement que Jésus-Christ et les apôtres ont magnifié la loi de Dieu. Il y a certaines lois de l'Ancien Testament qui ont été abolies, comme les lois cérémonielles et les lois des sacrifices, alors que les sacrifices représentaient le sacrifice parfait du Christ qui allait venir. Ces choses-là ont été abolies avec la venue du Christ. Mais la loi spirituelle de Dieu, les 10 commandements, n'ont pas été abolis ni cloués à la croix, comme certains disent. Lisez notre littérature et vérifiez ça dans votre Bible. Vous allez le voir clairement. Il n'y a rien dans la Bible qui dit cela. Je suis prêt à vous donner 1 000 $ de mon argent personnel. Je ne suis pas riche, mais je peux vous donner 1 000 $ si vous me prouvez par la Bible que le sabbat a été aboli ou que la loi spirituelle de Dieu a été abolie ou clouée à la croix. J'ai prouvé ces choses-là, mais chacun d'entre vous, vous devez faire ces choses-là. Vous devez prouver pour vous-même ces choses-là, que vous soyez nouveau ou ancien, même vous, les anciens dans l'Église. Vous devez prouver ces choses-là. Écoutez, dans le passé, lorsque l'apostasie est arrivée, des milliers d'entre nous ont quitté parce qu'ils n'avaient pas prouvé pour eux-mêmes et par eux-mêmes dans la Bible ce que Dieu commande. Étudiez vous-même la Bible. Voyez ce que le Christ a fait. Le Christ est notre exemple. C'est lui la lumière. Quel jour le Christ a-t-il observé? Le sabbat. Quelle fête annuelle a-t-il observé? Est-ce qu'il a observé Noël? Est-ce qu'il a célébré les Pâques, Halloween, le poisson d'avril et tous ces jours? Voyez ce que la Bible dit. Il faut que le Christ vive sa vie en nous. C'est là une question fondamentale concernant le christianisme vécu. Comprenons bien. Qui comprend et enseigne la vérité? C'est là que la vraie Église se trouve. Il faut que vous compreniez cela et que vous en soyez convaincu. M. League a parlé de la Pâque, a parlé de la brochure que nous avons sur les jours saints de Dieu qui décrivent le plan de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la première fête est appelée la Pâque. Ce n'est pas la fête des Pâques. Ça a été changé dans l'histoire. Les chrétiens originaux ont observé la Pâque. Et nous observons la Pâque parce que c'est ce que le Christ nous a commandé de faire. C'est ce que nous faisons et c'est ce que nous allons faire même dans le monde à venir. Je vais en parler un peu plus tard, mais lorsque vous devenez membre de la vraie Église de Dieu, il faut que vous le prouviez par vous-même. On ne pousse pas les gens vers la conversion et vers le baptême. Il faut qu'ils aient le temps de savoir, de prouver les choses pour eux-mêmes. Lorsque vous décidez de vraiment vous repentir et que vous voulez vous convertir, il faut que vous prouviez les choses pour vous-même, pour être solide dans la vérité. Et assurez-vous que ces choses-là viennent de la Bible. C'est là le fondement du christianisme. Alors, je vais vous parler un petit peu de la Pâque ici. Il y a 2-3 semaines, j'ai donné un sermon là-dessus, alors je ne veux pas répéter. Mais le Christ est notre Pâque. Il est l'agneau de Dieu. Alors, je veux parler aujourd'hui du vrai Jésus-Christ de la Bible. Les différents aspects de notre souverain sacrificateur, de notre grand frère, de notre grand roi qui vient bientôt. Allez à l'évangile de Jean, s'il vous plaît. L'Évangile de Jean, chapitre 1, et vérifiez ce que je vous dis. Ne croyez pas ce que je vous dis sans vérifier. Faites-le vous-même, vérifiez. L'Évangile de Jean, chapitre 1 et le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'était le porte-parole de Dieu. Il était le porte-parole de la famille de Dieu. Celui qui est devenu Jésus plus tard, il n'était pas encore né dans la chair humaine. Et il est désigné ici comme étant le porte-parole de Dieu. Au commencement. Ça remonte très très loin. Dans le fond, c'est infini dans le passé. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, par le Christ. Qui était le Christ? Il avait été avec Dieu depuis toute l'éternité. Un temps infini dans le passé. C'est difficile pour des êtres humains de saisir l'éternité. Alors, ça dit ici, au commencement était le porte-parole et était Dieu. Et le Christ est cette personnalité que Dieu a utilisée pour parler aux êtres humains. Et le Christ est celui qui a créé. Le Père a décidé de créer les choses par Jésus-Christ, celui qui est devenu Jésus de Nazareth. Alors, toutes choses ont été faites par elle, par le porte-parole, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il a créé le soleil, les étoiles, les montagnes, les vallées, les animaux. Il vous a donné la vie, il a créé l'humanité. Et il était le représentant du Père, son porte-parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Le Christ est la lumière, c'est lui qui nous a donné l'exemple. Pas un exemple, mais l'exemple parfait que nous devons suivre. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et après, il parle de Jean. Allons au verset 10 maintenant. Lui, le Christ, était dans le monde, et le monde a été fait par lui, par elle, par la parole ou porte-parole, et le monde ne l'a point connu. Le Christ a grandi dans la religion juive à l'époque, mais c'est lui qui avait créé le monde. Et c'est pas surprenant que lorsqu'il était sur la mer de Galilée, il a calmé les eaux. Ce n'était pas étrange parce que c'est lui qui l'avait fait. C'est lui qui l'avait créé. Il est le Tout-Puissant qui a créé la mer de Galilée. Le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connu. Les Juifs l'ont rejeté. Ils l'ont mis à mort. Plusieurs disent, si nous avions un ministre parfait aujourd'hui, si nous avions quelqu'un de parfait avec une belle voix, une belle personnalité, nous serions convertis. Ah oui? Que dire du Christ? Ils ne l'ont pas suivi. Les gens détestent la vérité. Les gens détestent ce qui est vrai parce que ça les aveugle. Ils aiment les ténèbres, ils aiment ce qu'ils font de contraire à la loi. Le Christ lui-même était là, ils ne l'ont pas reconnu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le mot « nom » dans le Nouveau Testament désigne tout ce qu'est une personne, votre personnalité, votre apparence, votre caractère, votre profession, tout ce que vous croyez, tout ce que vous êtes. C'est ça ce que représente un nom. Écoutez, si par exemple dans le passé, un père avait un fils qui se conduisait mal et qui amenait une mauvaise réputation sur la famille, le père disait, « Mon fils, si tu continues, tu vas amener une mauvaise réputation sur notre famille et on va en payer le prix. » Si le père avait un commerce, le magasin de M. Olivier, par exemple, les gens auraient cessé d'aller à ce magasin-là si le fils se conduisait mal, maltraitait les gens, frappait les gens, les insultait, les injuriait. Alors, un nom, c'est important. Un nom, dans le Nouveau Testament, ça représente ce qu'est une personne. Alors, Dieu a permis que son Fils vienne dans la chair humaine et il nous a donné l'exemple parfait que nous devons suivre. Le Christ et le Père ont conçu la terre et ont conçu de créer l'être humain à leur image. Je n'ai pas le temps ici de lire tout ça, mais vous irez dans Genèse 1 où il est dit qu'ils ont déclaré « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 1, verset 26. Le Père et le porte-parole ont dit « faisons l'homme à notre image ». Ils étaient plus qu'un, ils étaient deux. Créons l'être humain et qu'il domine sur la terre. Alors, Dieu a créé les êtres humains à leur image. Et le but, c'était de leur donner la domination sur toute la création. Voyez-vous, les animaux ont été créés, mais ils n'ont pas une intelligence, un esprit humain comme Dieu nous a donné. Les animaux n'ont pas ça. Dieu nous a donné une imagination créative, une intelligence, un esprit dans l'homme qui nous permet de créer des choses et de devenir, avec l'Esprit de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et un jour, nous naîtrons de l'Esprit et deviendrons membres à part entière de la famille de Dieu. Et Dieu nous dit depuis le début que c'est pour nous donner la domination, l'administration sur la création. Alors, Dieu et son porte-parole ont planifié de créer l'être humain dans cette optique-là. Voyez-vous, il nous faut apprendre des leçons. Et nous sommes dans la chair humaine pour développer le caractère de Dieu, pour apprendre à nous soumettre à Dieu, pour qu'il développe son caractère en nous. On ne bâtit pas le caractère de Dieu par notre force humaine. C'est le Christ qui le fait en nous, en vivant en nous. Et ça nous prépare à vivre éternellement dans le royaume de Dieu. Verset 29 maintenant. « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'était le Créateur. Depuis le tout début, le Christ savait qu'il allait se dépouiller de sa divinité, de ses prérogatives, de ses pouvoirs, et qu'il allait devenir un être humain, de sorte qu'il puisse mourir sur la croix, verser son sang pour payer l'amende de nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu. Le Christ a payé l'amende de nos fautes à notre place. Depuis le début, il savait qu'il allait devoir venir dans la chair humaine, qu'il allait être l'agneau de Dieu, l'agneau pascal. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est celui dont j'ai dit, c'est Jean qui parle, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Ici, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né 6 mois avant le Christ. Et Jean-Baptiste savait qu'il existait avant lui-même, Jean-Baptiste, parce que le Christ était un esprit qui a vécu de toute éternité. Et Jean-Baptiste comprenait cet aspect-là. Je n'ai pas le temps de couvrir tous les aspects de cela, mais je vais vous donner une vue d'ensemble de qui est Jésus-Christ. L'être qui a été avec le Père depuis toujours, c'est la personnalité qui, depuis toujours, était le porte-parole de Dieu, du Père. Et c'est lui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lui qui a créé, comme on l'a vu. C'était le Christ qui fut le Créateur. Puis il est venu dans la chair humaine mourir pour nous. De quoi parle l'Évangile? Allons à 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15, et on va lire à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et voyez maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Certains, même dans l'Église de Dieu, j'ai de la misère à l'imaginer, mais certains ont pensé et pensent parfois que le Christ ne fait pas partie de l'Évangile. Mais écoutez, le Christ, c'est la base, c'est le point central de l'Évangile. Les protestants en parlent un peu, mais ils ne comprennent pas l'ensemble. Nous parlons beaucoup de la fin des temps et du retour de Christ, parce que nous sommes tout proches de ce temps-là. Écoutez, les apôtres ont parlé beaucoup de la mort du Christ parce que ça venait de se produire, c'était tout frais à leur mémoire et ils l'ont prêché avec force. Le Christ est mort pour nos péchés, comme Paul dit ici, et c'est une merveilleuse nouvelle, à savoir que nous pouvons voir nos fautes passées effacées, notre convoitise, nos méchancetés, notre dureté, toutes nos transgressions, et c'est une nouvelle merveilleuse, selon les Écritures. Quelles Écritures? Bien sûr, l'Ancien Testament. Paul parle ici de l'Ancien Testament parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit à ce moment-là. Verset 4, « Le Christ a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures toujours, parce que c'était annoncé. » Dans Matthieu 12, verset 38 à 40, c'est écrit que le Christ a accompli la prophétie de Jonas, c'est-à-dire que le Christ a été dans le ventre de la terre, pour ainsi dire, trois jours et trois nuits, comme Jonas avait été dans le ventre du grand poisson. Ça ne dit pas que c'était une baleine. Vous ne pensez pas que le Créateur ne puisse pas créer un immense poisson capable d'avaler un homme? C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Alors Dieu a fait ce grand poisson qui a avalé Jonas, et Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de ce grand poisson. Et c'était une prophétie symbolisant ce qui allait arriver au Christ une fois décédé. Ce n'est pas du tout comme les protestants et les catholiques disent, que le Christ est mort le vendredi après-midi et qu'il est ressuscité le dimanche matin. C'est un jour et deux nuits, ce n'est pas trois jours et trois nuits, comme la prophétie l'annonce avec exactitude. Le Christ est ressuscité après trois jours et trois nuits, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Verset 5. Et le Christ est apparu à Céphas, Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. J'ai un petit peu de difficulté, parce que j'ai de la difficulté avec les nouveaux éclairages qu'on a ici. Parfois, ça m'empêche de lire comme il faut. J'ai de la difficulté un peu à vous voir. Cet éclairage puissant est là parce que nous enregistrons le sermon pour l'envoyer ailleurs à travers le monde. Ça m'amène un petit peu de difficulté à lire. Il a été vu par plusieurs frères, 500 au moins. Deux fois le nombre de ce que nous sommes ici. Tout ce monde-là ont vu le Christ après la résurrection. Ils l'ont vu de leurs yeux. Donc, il y avait plusieurs témoins qui l'ont vu après sa résurrection. Plusieurs l'ont vu sur la croix également, avant, alors que le soldat a planté son épée dans le côté du Christ. Ensuite, il est apparu à Jacques, et ainsi de suite, et après à eux tous, et il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, Paul dit, il m'est apparu aussi à moi, à Paul, comme à l'avorton. Parce que Paul est arrivé sur la scène après les 12 apôtres originaux. Verset 9, il dit, « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Quelle Église? L'Église de Dieu. Monsieur Ames l'a expliqué. Il y a 12 endroits précis dans le Nouveau Testament où l'Église de Dieu est appelée clairement l'Église de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église de Dieu. C'est là l'Église de Dieu, c'est le nom de l'Église de Dieu. Dieu appelle les choses comme elles sont. Moi, j'ai grandi dans l'Église méthodiste et ma grand-mère enseignait le dimanche à l'Église et c'était des gens très sympathiques. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'appellent méthodistes? Pourquoi? Ça se vérifie historiquement parce que John Wesley, le fondateur, était un homme très méthodique. Il avait un endroit pour chaque chose. C'était un homme extrêmement ordonné. Alors, ils ont nommé l'Église selon cette habitude qu'il avait. L'Église luthérienne est nommée d'après le nom de Luther. L'Église anglicane a aussi l'explication pour son nom. Le roi Henri VIII s'est séparé de l'Église catholique parce qu'il voulait marier Anne Boleyn. Alors, c'est important de voir pourquoi les églises portent le nom qu'elles portent. Mais la vraie Église de Dieu s'appelle l'Église de Dieu. Et le chiffre 12, c'est le chiffre qui symbolise une organisation de début, un début organisé. Les 12 fils de Jacob, les 12 portes de la ville sainte, les 12 fondations qu'aura la ville sainte. Vous voyez ça dans Apocalypse 20, 21. Et 12 fois dans le Nouveau Testament, l'Église est appelée l'Église de Dieu. D'autres églises s'appellent Église de Dieu. L'Église de Dieu pentecôtiste et ainsi de suite. Et il se livre à toutes sortes de choses émotives, mais ce n'est pas la vraie Église. Pour séparer les choses, pour identifier la vraie Église, cherchez l'Église qui a le vrai nom, l'Église de Dieu. Prouvez-le par vous-même. Et regardez quelle Église observe le sabbat, quelle Église observe, telle que commandée par Dieu, les fêtes de Dieu. Prenez notre brochure sur le plan divin à travers les fêtes. Le Christ a observé ces fêtes-là. Pierre les a observés, les apôtres, Paul l'a observé, et ainsi de suite. Nous les observons maintenant et nous voyons dans la Bible que ces fêtes-là seront observées dans le monde à venir. Une seule Église possède le nom de l'Église de Dieu et observe le sabbat hebdomadaire et les 7 sabbats de fêtes annuelles. Et ça, ça permet d'identifier où est la vraie Église de Dieu et quelle est la vraie Église de Dieu. Elle est appelée l'Église de Dieu. Et comme Paul dit ici, l'Évangile parle du Christ et de sa mort. Nous sommes très reconnaissants de ce que le Christ a fait pour nous. Allons à l'Évangile de Marc, s'il vous plaît. Marc, chapitre 1. Ici, ça parle du commencement de la prédication du Christ. Verset 12, Marc 1. « Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. » Où il passa 40 jours, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Verset 14 maintenant. Après que Jean eut été livré, vous vous rappelez, Jean-Baptiste a été mis en prison, celui qui annonçait le Christ, et il a été décapité par Hérode. Jésus alla dans la Galilée, prêchant quoi? Il a prêché concernant lui-même. Il a dit, « Je suis la voie, je suis la vérité et la voie, je suis la résurrection. » C'est ce que le Christ a fait. Mais ici, il est dit que le Christ prêchait alors l'Évangile de Dieu. Il y a deux éléments majeurs dans l'Évangile sur lesquels la Bible insiste. Le rôle du Christ est le gouvernement de Dieu qui va être bientôt établi sur la terre. C'est ça, l'Évangile du royaume. Je suis allé récemment en Angleterre, c'est le royaume de la reine d'Angleterre qui règne sur l'Écosse et sur l'Irlande du Nord, sur l'Angleterre. C'est un royaume et c'est un gouvernement. Royaume veut dire ça. Les protestants parlent du royaume, mais ils disent que c'est un sentiment chaleureux qu'on a dans le cœur et que ça vous fait vous sentir bien. Non, ce n'est pas le royaume de Dieu, absolument pas. Si vous êtes vraiment converti, vous vous êtes encouragé, bien sûr, par l'Esprit de Dieu, mais vous réalisez que le royaume de Dieu, c'est un gouvernement réel qui sera établi sur la terre. Ici, comme on peut voir à Apocalypse 11, verset 15, quand le Christ va revenir sur la terre, établir son gouvernement, il va régner sur toutes les nations de la terre. Ce sera alors le royaume de Dieu. Le Christ est venu prêcher ce gouvernement qui vient bientôt. Le Christ, il est le sauveur, il est la voie qui mène à ce royaume et il est le roi de ce royaume. C'est son royaume, ce n'est pas le royaume de quelqu'un d'autre. Il faut le comprendre. Alors, il nous faut comprendre les deux aspects du royaume de Dieu. Il est notre sauveur, il est notre roi. Allons au livre de Actes maintenant, s'il vous plaît. Actes chapitre 8. Le récit des événements qu'ont vécu les apôtres, les premiers chrétiens. Après la mort du Christ, les disciples étaient dispersés, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Est-ce qu'il a simplement prêché le Christ? Non, continuons la lecture. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Il a fait des miracles extraordinaires et Dieu répandait de son esprit en grande abondance. Moi, je vous le dis, alors que la fin de cette époque approche, nous allons voir des choses spéciales se produire par l'Esprit de Dieu. Et j'ai vu, depuis 60 ans que j'étudie la Bible et que j'observe la réalisation des prophéties, je sais que le temps approche et je sais que le Christ ne reviendra pas demain ni l'an prochain. Pourquoi? Comment est-ce que je peux oser dire ça? Parce que Dieu a dit qu'il y a une série d'événements qui doivent d'abord se produire. Et Dieu ne trahira pas sa propre parole, sa propre prophétie. Le Christ va revenir sur cette terre dans 10 ans ou 15 ans ou plus, mais peut-être plus rapidement que nous le pensons. Ce sera beaucoup moins que 25 ans, j'espère, et je suis pas mal certain. Nous allons voir ça. Alors, Philippe faisait des miracles. Plus nous allons approcher du retour de Christ, nous devons aller à genoux et demander à Dieu et marcher avec Dieu. Il va nous donner les dons du Saint-Esprit, beaucoup plus et avec beaucoup plus de puissance que maintenant. Nous avons actuellement des guérisons merveilleuses dans l'Église, mais pas autant que nous aimerions avoir. Certaines personnes sont actuellement guéries de façon surnaturelle. Et je vous le dis à vous, les nouvelles personnes qui sont ici, j'ai déjà été à l'église pentecôtiste ou à d'autres assemblées où on disait faire des miracles extraordinaires devant des foules. Je suis allé voir ça, je suis allé les entendre à quelques occasions et je me rappelle d'un homme sourd. Il était allé en avant et le monsieur là, qui prêchait a pris sa tête et a dit « Soyez guéri, soyez guéri, soyez guéri ». Et il s'est approché de lui et il a dit hey, « Est-ce que vous m'entendez maintenant ?» Et l'homme a dit « Oui ». Et j'ai parlé à cet homme-là après l'assemblée. Et je lui ai demandé « Est-ce que vous avez toujours été complètement sourd ?» Et il a dit « Non, j'entendais un petit peu ». Je lui ai dit « Est-ce que vous vous sentez mieux maintenant ? Est-ce que vous entendez mieux ?» Il fallait que je lui parle fort. Il a dit « Non, pas pour le moment ». Voyez-vous, parfois c'est des faire-semblants, mais Satan peut aussi faire de faux miracles. Mais pour identifier quelle est la vraie Église, il faut voir est-ce que cette Église-là enseigne ce que la Bible dit vraiment? Est-ce que ces gens-là observent le sabbat? Vous savez, une guérison, ce n'est pas avoir un rhume et prendre du jus d'orange pendant une semaine et être mieux parce que c'est automatique que vous allez revenir mieux, vous allez vous trouver mieux. Ce n'est pas une guérison surnaturelle, absolument pas. C'est simplement une relation de cause à effet et un rhume qui s'en va. Nous parlons d'intervention surnaturelle de Dieu et Dieu va nous en donner davantage d'ici la fin. Je le sais. Verset 12 maintenant de Acte 8, verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, voyez-vous, il leur prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a prêché le prochain gouvernement mondial qui va venir, qui va être établi par le Christ sur toute la terre. Philippe annonçait ça, la bonne nouvelle du royaume, du gouvernement de Dieu, et il prêchait le nom de Jésus-Christ. Les deux éléments fondamentaux de l'Évangile. On retrouve ça tout au long du Nouveau Testament. C'est là l'essentiel du message du Christ et de ses serviteurs. Allons à la fin du livre des Actes, acte 28. Nous allons voir la même chose là, acte 28, et nous allons lire à partir du verset 30, vers la fin de la vie de Paul, acte 28, verset 30. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Prêchant quoi? Qu'est-ce qu'il prêchait à la toute fin de sa vie? Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Les deux éléments que je viens de vous montrer, ce sont les deux éléments majeurs de tout l'Évangile. Certains ne comprennent pas ça. Les protestants parlent du royaume, mais ne comprennent pas vraiment, et dans d'autres églises, la même chose. Voyez-vous, on voit ici qu'est-ce que c'est vraiment l'Évangile, les deux éléments majeurs. Allons à Actes chapitre 3 maintenant. Actes chapitre 3 et le verset 19. Ici, c'est Pierre qui s'adresse aux Juifs. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Le Christ est venu sur la terre, il a donné sa vie, il est retourné au trône de son Père et il va revenir tel que promis. Il va revenir bientôt, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il y a un temps qui approche où tout sera restauré. Les voies divines, les lois de Dieu seront connues par toute la terre, seront enseignées par toute la terre. Et la vérité va remplir la terre comme l'eau remplit le fond de la mer, comme il est écrit dans l'Ancien Testament. Un temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Les prophètes de Dieu ont parlé de ce royaume qui s'en vient bientôt, ont parlé du Messie, ont parlé du roi des rois. Et Dieu parle de ces gens-là qui ont annoncé ça comme de ces saints prophètes qui ont annoncé la vérité. Et il nous faut, comme il nous a commandé, vivre selon toute parole de Dieu. Et à ce moment-là, quand les apôtres ont prêché et que le Christ a fait son ministère, il y avait seulement l'Ancien Testament qui était écrit. Les Écritures qu'on appelle. Alors le Christ revient bientôt et son royaume sera établi sur la terre. Allons à 1 Thessaloniciens, maintenant le chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 13. J'ai des petits cartons pour marquer mes pages, pour arriver plus vite que vous au verset. Verset 13. Voici ce que Paul écrit aux Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. » Vous savez, les gens parlent d'aller au ciel avec joie, mais quand vient le temps de mourir, ils ont peur de la mort, parce qu'ils ne sont pas vraiment certains de ce qui les attend au-delà de la mort. Ils pensent qu'ils vont aller au ciel, mais ils ne savent pas ce que ça va être. Ils ont peur de la mort. On ne doit pas avoir peur de la mort. Et on ne doit pas être dans des afflictions outre mesure. On est attristé par la perte d'un être cher, mais on sait qu'on va revoir la personne à cause de la résurrection. Et surtout, à l'époque où on est rendu, la résurrection aura lieu très bientôt. Verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Alors, c'est une promesse. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur lorsque le Christ viendra. Certains d'entre nous, beaucoup d'entre nous vont être encore vivants lorsque le Christ va revenir. L'apôtre Paul pensait que c'était de son temps. Il avait cette impression-là. Il n'avait pas compris cet aspect-là. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. En d'autres termes, les serviteurs de Dieu qui sont morts dans l'histoire vont être ramenés à la vie au moment du retour de Christ. Puis, ceux d'entre nous qui seront encore vivants seront transformés et vont se joindre aux autres pour accueillir le Christ dans les airs. Mais ils n'iront pas au ciel, absolument pas. Ils vont rencontrer le Christ dans les airs, dans l'atmosphère de cette planète, et ils vont redescendre sur le mont des Oliviers avec le Christ. Le Christ ne vient pas enlever les gens pour les amener au ciel. Le Christ descend du ciel, et à ce moment-là, ses serviteurs transformés, ressuscités, vont aller le rencontrer et ils vont redescendre sur la terre. Verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Et ça va arriver du vivant de la plupart d'entre vous. Il n'y a rien de plus enthousiasmant que ça. Et on voit les prophéties commencer à se réaliser de façon extraordinaire. On voit les gouvernements au Moyen-Orient être renversés les uns après les autres. Et on va voir arriver le Mahdi qui va être en charge des nations musulmanes, qu'on appelle le roi du Sud, que la Bible appelle le roi du Sud. Et on voit ces choses-là se préparer, se développer. Nous allons voir les États-Unis et les nations de langue anglaise être déchues et chutées. On voit ces choses-là arriver maintenant. Plus que jamais, on voit nos nations décliner. Et nous allons entendre à un moment donné le son de la trompette. Les montagnes seront ébranlées. Ce sera le moment les plus excitants, enthousiasmants de toute l'histoire de l'humanité, parce que le Christ viendra, le Christ descendra. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, verset 17, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça ne dit pas que nous allons au ciel, parce que le Christ va descendre sur la terre, comme on voit dans Zacharie. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Où sera-t-il? Nous serons sur la terre pour le premier 1000 ans du royaume de Dieu. Verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça va venir soudainement. Il nous faut vraiment surveiller les événements mondiaux. Nous vivons dans des temps très bouleversés, mais excitants en même temps, parce que nous approchons du retour de Christ. Les gens vont penser que tout va bien aller. Une fois que l'Europe aura conquis nos pays israélites, ils vont penser que la paix est arrivée. Ils vont dire paix et sécurité. À ce moment-là, l'Église aura été amenée à un lieu de sécurité. Et quand les nations israélites auront été amenées en captivité, les gens dans les différents pays de l'Europe vont se moquer de nous. Mais ça ne durera pas longtemps, parce que le Christ va revenir en tant que roi des rois. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, verset 4, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En d'autres termes, vous ne devez pas être étonné de ça. Je vous dis, étudiez ce livre, pas simplement lire, étudiez à tous les jours ce livre pour comprendre les choses et vivre selon les voies de Dieu. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons. Il nous faut veiller, surveiller les événements mondiaux, voir la prophétie se dérouler. On peut voir dans Luc 21, comme dans Matthieu 24, on voit la description de toute la série d'événements qui doit se produire précisément d'ici le retour de Christ. Le Christ a dit « Veillez et priez toujours pour être jugé digne d'échapper à ces choses qui viennent et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Il nous faut veiller et prier. Il faut étudier ce livre, voir ce que la prophétie dit. Ce sont des choses enthousiasmantes. Étudiez votre Bible. J'espère que vous le faites. Prouvez les choses. Si vous avez des questions dont vous n'êtes pas certain, demandez des questions. Si vous avez des questions, venez me voir après l'Assemblée. Je ne pourrais pas rester jusqu'à minuit, mais écoutez, je veux répondre à toutes vos questions. La vraie Église de Dieu comprend. Nous comprenons. Et nous comprenons le plan de Dieu et le but de Dieu. J'ai déjà parlé à des gens de d'autres églises. Ils comprennent parfois une toute petite vérité. Et après ça, ils sont perdus complètement. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Ils ne comprennent pas ses fêtes, ni son sabbat. Ils ne comprennent pas. Ils parlent du Christ, ils parlent de Dieu, ils parlent de l'amour, mais ils ne comprennent pas Dieu ni son plan. Lisez votre Bible et vivez selon ce que Dieu vous dit. Assurez-vous de vivre selon les voies de Dieu. Nous sommes contents que vous posiez des questions et que vous vérifiez les choses. La vérité peut être prouvée et la vérité de Dieu, elle est puissante. Il n'y a pas d'argument contre la vérité de Dieu si vous êtes disposé à vouloir comprendre. Ceux qui veulent comprendre peuvent comprendre. On peut demander à Dieu et Dieu nous guide. Vous êtes ici parce que Dieu vous a appelé. Allez plus loin. Le Christ est l'agneau pascal, il est mort pour nos fautes et le Christ va revenir très bientôt en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et il revient sur cette terre. Il nous faut veiller et être prêts pour ça. Voyons maintenant un autre aspect du royaume. Le Christ est le sauveur, c'est le grand roi qui va venir. Allons dans Zacharie 14, Zacharie chapitre 14. Le livre de Zacharie, c'est comme un livre qui fait le pont entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Plusieurs des versets de Zacharie expliquent ce qui s'en vient dans le Nouveau Testament et ce qui s'en vient dans les temps juste devant nous. Zacharie 14 et le verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive, Zacharie a été inspiré par Dieu de décrire ce qui s'en vient. Le jour de l'Éternel arrive, le jour de Christ, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Je suis allé à Jérusalem à 4-5 reprises, et certains d'entre vous aussi. C'est une toute petite ville sur la terre. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Voyez bien, ça a été écrit il y a très longtemps. Ça a été écrit, le livre, attendez un peu, je vais vérifier. Ça a été écrit à peu près 500 ans avant que le Christ vienne sur la terre. Donc, ça fait plus de 2500 ans maintenant. Le Dieu de la Bible a inspiré Zacharie d'écrire que Jérusalem allait continuer d'exister à notre époque et que Jérusalem allait être divisée. Est-ce que Jérusalem est une ville divisée maintenant? Oui, c'est bien le cas. Il y a les Juifs d'un côté et les Arabes de l'autre côté. Et ils sont en lutte, en conflit constamment. Le Christ va revenir à une ville divisée. La moitié de la ville ira en captivité. Ce sera la moitié juive de la ville. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. Alors l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle de la deuxième venue de Christ. D'ici 10 ou 15 ans, il va revenir. Ses pieds se poseront en ce jour-là au ciel? Non, sur la montagne des Oliviers. Voilà l'endroit précis où le Christ reviendra. Verset 9, un peu plus loin, l'Éternel, le Christ, sera roi de toute la terre. Non pas dans le ciel, mais sur la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Verset 16, un peu plus loin, vous lirez vous-même les autres versets. Je n'ai pas le temps de lire tous les versets ici. On ne veut pas aller jusqu'à minuit ce soir. Alors, verset 16 ici. « Tous ceux qui resteront de toutes les nations à ce moment-là venus attaquer Jérusalem, et à peu près toutes les nations de la terre seront représentées dans les armées qui viendront là, lorsque le Christ reviendra. Alors, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, le Christ. Et pour célébrer quoi? Est-ce qu'ils vont célébrer Noël, le jour du poisson d'avril, les Pâques, Halloween? Non, pour célébrer la fête des tabernacles. Vous, certaines personnes nouvelles parmi nous, vous n'avez pas entendu ce nom-là déjà, comme ça a été mon cas lorsque j'ai sorti de l'église méthodiste. J'avais jamais entendu parler de la fête des tabernacles. C'est là un des sept jours de fête de Dieu. C'est une des sept fêtes commandées par Dieu. Nous sommes actuellement des pionniers qui célébrons ces fêtes-là et nous nous préparons à servir le Christ pour enseigner ces nations-là dans le monde à venir. Et à ce moment-là, les nations vont elles-mêmes observer la fête des tabernacles, comme les autres fêtes également. On appelle ça aussi la fête de la moisson. On peut voir ça dans Exode 23 et Exode 34. Et parfois, on appelle la fête des tabernacles la fête des tentes ou la fête de la grande moisson. C'est le salut à ce moment-là pour l'ensemble de l'humanité. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à sauver toute l'humanité. Des gens disent, comment ça se fait que vous êtes si petits, vous, l'Église de Dieu? Il faut comprendre la réalité derrière ça. Si Dieu essayait aujourd'hui de sauver toute l'humanité, il sauverait toute l'humanité. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Et la plupart des gens dans le monde ne sont pas chrétiens et ne seront pas chrétiens tant que le Christ ne reviendra pas et qu'ils ne se verront pas enseigner la vérité. Vous savez, si Dieu était en train actuellement de vouloir sauver le monde, il le ferait. Pour le moment, il appelle un tout petit troupeau en préparation pour être ses sacrificateurs, ses enseignants et ses rois qui vont administrer la planète et enseigner les nations dans le monde à venir. Alors, on voit que les nations ici vont devoir observer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre, verset 17, qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Est-ce que le Christ peut faire ça? Il est le roi. Les protestants pensent encore à Jésus comme un tout petit Jésus dans la crèche ou voient Jésus sur la croix comme avec quelques gouttes de sang qui coulent de de sa tête ou de ses mains et c'est tout. Non, le Christ était un jeune homme solide. C'est lui qui s'est présenté au temple et qui a tourné les tables et qui a chassé les vendeurs du temple. Il avait de l'amour, mais il était vigoureux, il était fort. Et il revient bientôt en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est le Tout-Puissant. C'est le Dieu de la création. C'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et lorsqu'il reviendra, il va gagner et il va devoir combattre pour gagner. Certains vont dire, ah, c'est cruel. Non, c'est la chose à faire. Et c'est ce que le Christ va devoir faire. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens sur le Titanic? Vous avez déjà vu ce film. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé mourir les gens du Titanic? Pourquoi Dieu a laissé mourir les gens dans l'Holocauste lors de la Deuxième Guerre mondiale? Il y a une raison. Dieu l'explique dans sa Bible. Nous savons pourquoi. Il y a seulement un nom par lequel nous devons être sauvés. C'est Paul qui l'écrit et Pierre l'a dit aussi. Dieu n'essaie pas de sauver le monde maintenant, mais lorsque le Christ sera revenu, à ce moment-là, Dieu va intervenir directement. Depuis qu'Adam et Ève se sont détournés, il a laissé l'humanité à elle-même. Prenez notre brochure sur les jours saints qui explique le plan de Dieu. Et vous allez voir qu'après le millénium, tous ceux qui sont morts depuis le début de l'histoire de l'humanité vont avoir leur chance. Et ce ne sera pas leur seconde chance. Ce sera leur première chance, parce que les gens n'ont jamais eu la chance de connaître le vrai Dieu. Est-ce que les Chinois, qui n'ont jamais même entendu le nom de Jésus-Christ, est-ce qu'ils connaissent Dieu? Est-ce qu'ils ont leur chance maintenant? Absolument pas. Ils ne comprennent pas ça pour le moment. Dieu n'a pas encore ouvert leur esprit à comprendre, mais Dieu le fera pour l'ensemble de l'humanité. Il le fera pour ceux qui seront en vie après le retour de Christ et il le fera au moment de la résurrection de tous les êtres humains qui ont vécu après le millénaire. Et ils auront leur première chance de connaître la vérité. La Bible, c'est merveilleux, vous savez. Lorsque vous comprenez le plan de Dieu, c'est extraordinaire. Tout tombe en place. C'est très logique, c'est très sensé. Alors, les gens, à ce moment-là, vont observer la fête des tabernacles. Et ça dit, au verset 18, c'est la famille d'Égypte. Ils sont contre les Juifs. Et au début, il est possible que les Égyptiens qui haïssent les Juifs ne voudront pas monter pour observer la fête des tabernacles. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? Ils n'auront pas de pluie. Dieu va intervenir. Dieu, autrement dit, va leur parler dans la langue qu'ils peuvent comprendre. Quelle langue le colonel Kadhafi peut-il comprendre? Quelle langue Staline pouvait comprendre, ou quel langage est-ce que Hitler pouvait comprendre? Seulement la force, l'obligation de. Staline avait demandé, en parlant du pape, combien est-ce qu'il y a de divisions? Combien est-ce qu'il y a d'armées? Ha, ha, il se moquait de ça. Ces gens-là ne comprennent pas autre chose que la puissance militaire. Ce qu'ils comprennent, et ce à quoi ils se soumettent, c'est une force plus grande que la leur. C'est le sens de l'histoire. Lorsque le Christ va revenir, il va conquérir les nations et il va devoir, au début, diriger avec une verge de fer. Dieu est bon, bien sûr, mais pour les amener à comprendre, il va devoir intervenir de façon puissante. Certains ne comprendront pas autre chose qu'une force plus puissante que la leur pour se soumettre et pour enfin comprendre. Dieu est juste. Le monde est séduit actuellement par Satan. Dans Apocalypse 12, verset 9, on en parle souvent, il est écrit que la terre entière est séduite par Satan, l'adversaire. Vérifiez ça, vérifiez ça. Satan, le diable, est le petit dieu de ce monde, de toute cette société. Et il y a plusieurs autres passages des Écritures qui le montrent. Nous ne sommes pas dans le monde de Dieu, c'est la société de Satan, c'est le monde de Satan. Le Christ va revenir et rétablir toute chose. Alors, si la famille d'Égypte ne monte pas, elle devra faire face à une force plus grande qu'elle et elle n'aura pas de pluie. Et elles seront frappées de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, comme on voit au verset 18, qui va frapper ceux qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ils vont devoir faire ce que Dieu dit. Nous qui sommes appelés aujourd'hui, nous devons développer cette attitude de faire ce que Dieu nous dit de faire. Bon, vous avez devant vous un vieil homme qui prêche des choses différentes que vous connaissez pour vous qui êtes nouveau avec nous, mais ça a été la même chose pour moi. Je suis allé voir plusieurs églises avant de découvrir la vraie Église de Dieu. J'avais des amis, j'avais un groupe d'amis, et parfois on allait dans l'église les uns des autres pour voir ce qui se passait. Et je me rappelle, aucune de ces églises ne prêchait ce qui est vraiment écrit dans la Bible. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui compte. Ça a toujours été là, mais les gens ne le comprenaient pas. Nous savons ce qui va se passer, et dans le futur, lorsque le Christ sera revenu, les gens vont observer les fêtes et la fête des tabernacles. La Pâque représente le début du plan de Dieu, le sacrifice de Christ qui est venu en tant qu'agneau de Dieu, donner sa vie. Et la prochaine chose, la prochaine fête, c'est la fête des pains sans levain. Nous sortons le levain physique de nos maisons et ça nous rappelle qu'il nous faut sortir le péché de nos vies parce qu'après avoir accepté le sacrifice de Christ pour laver nos fautes, il nous faut croire dans la grâce et dans la connaissance et vivre selon ses voies. Et la prochaine fête ensuite, c'est la Pentecôte. On l'appelle la fête des prémices. Actuellement, Dieu appelle seulement un petit troupeau, les prémices, et après vous avez la fête des trompettes, le Christ va revenir à la dernière trompette. C'est à ce moment-là que le Christ va revenir. Ce sera des alarmes de guerre. Dieu va ébranler toute la terre, et à la septième trompette, le Christ va revenir. La prochaine fête, c'est le jour des expiations qui représente le jour où nous jeûnons, nous sentons notre faiblesse, nous demandons à Dieu de nous humilier, de devenir humbles, et nous lui demandons de devenir un avec lui lorsque nous serons des êtres spirituels. Et la prochaine chose, c'est la fête des tabernacles, celle dont nous parlons ici. C'est la fête qui représente le millénium, lorsque Dieu se mettra en marche pour appeler toute l'humanité. Après, le dernier grand jour, ça représente le moment où tous ceux qui ont vécu dans l'histoire vont être ramenés à la vie et vont se voir enseigner tous les livres de la Bible. Ils vont pouvoir comprendre et ils auront à ce moment-là leur première chance d'être sauvés. Le monde n'a pas compris ce plan. Dieu n'a pas encore ouvert leur esprit. Nous atteignons de plus en plus de monde. Nous rejoignons de plus en plus de gens à travers le monde, plus que jamais auparavant maintenant, par la télévision, par la radio, par Internet, par nos publications, et nous allons encore aller plus loin là-dedans. Vers la fin, nous allons avoir encore plus de pouvoir. Dieu va nous donner ce pouvoir-là pour aller plus loin. Alors, il nous faut faire notre part. Frères et sœurs, ceci indique que le monde entier, à un moment donné, connaîtra le Christ et va adorer le Christ, se verra enseigner les lois de Dieu et vont vivre selon les lois de Dieu dans le royaume de Dieu. Et vont vivre selon un christianisme que le monde n'a jamais compris. Je vais expliquer quelque chose ici, surtout pour les nouveaux, pour que vous compreniez bien ceci. J'appelle ça le faux paradigme. Un paradigme, c'est un modèle de référence ou une forme de réflexion. C'est un terme scientifique, un modèle de pensée. Et la science, par exemple, dans son système de recherche, crée un modèle selon lequel il travaille avec des hypothèses et ainsi de suite. Alors, le modèle de christianisme que les protestants et beaucoup adoptent, ce sont des modèles ou des paradigmes humains qui ne sont pas vraiment bibliques. Je me rappelle, lorsqu'on était tout petit, on descendait le matin de Noël et le Père Noël avait passé pour mettre des cadeaux sous les arbres. On nous disait que le petit Jésus était gentil. On nous expliquait la mère et l'enfant. On disait que le Christ était ailleurs maintenant. Et on nous disait, il faut que vous soyez sages, les enfants, parce que le Père Noël va passer. Le Père Noël va passer. On nous disait ça avant Noël. Et je me rappelle, dans le temps des Pâques qu'on célébrait, nos parents peignaient des œufs la veille. On les a surpris déjà lorsqu'on était plus grands. Et là, on a réalisé que ce n'était pas vrai, que les lapins ne pondaient pas des œufs colorés qu'on trouvait le lendemain dans le jardin. Alors, on commence à comprendre ces choses-là. La Bible ne parle pas de ça, absolument pas. Vérifiez les choses dans la Bible. Prenez une concordance. Est-ce que le mot Noël est mentionné dans la Bible quelque part? Absolument pas. Est-ce que les Pâques est mentionné? Non. dans aucune des traductions valables. C'est mentionné à une reprise dans Acte 12, verset 3, dans la version anglaise du King James. Mais les commentaires bibliques disent que le mot original, c'est « Pascha », ce n'est pas « Easter ».« Pascha », qui veut dire « la Pâque », qui veut dire « la Pâque ». Alors, les traducteurs de la vieille version King James ont inclus le mot « Easter », qui veut dire « les Pâques », parce qu'eux croyaient au Pâques. Mais « Easter », en anglais, ça vient du mot « Ishtar » ou « Astarté ». C'était la déesse de la fertilité au printemps. Les païens l'adoraient et les œufs vont avec ça parce que la femme a beaucoup d'ovules pour avoir des enfants. Tout ça est relié à la sexualité et à la fertilité, à cette déesse-là qui remonte à des milliers d'années auparavant. Ça s'est transmis de génération en génération et on retrouve ces mêmes faux paradigmes dans plusieurs grandes religions du monde. Je me rappelle, j'étais allé visiter Istanbul il y a quelques années avec un autre collègue. On a visité une ancienne mosquée qui était devenue une église catholique et qui était devenue par la suite un musée. Et le guide nous expliquait les choses qu'on voyait. Ce n'était pas un jeune homme religieux, on le voyait par ses propos. Alors le guide qui nous recevait nous expliquait des choses et il nous a dit, voici maintenant la statue. C'était une statue avec un visage peint. Il dit, voici la statue de la Vierge Marie. Il a dit, avant ça, c'était la statue de Diane. Et il a continué son explication, mais je l'ai arrêté parce que je voulais avoir des précisions. Je lui ai dit, cette pièce de roche ici, ce morceau de roche que vous appelez la Vierge Marie, est-ce que c'est la statue qui était la statue des Éphésiens, qui représentait la déesse des Éphésiens à Éphèse? Est-ce que ça a été apporté, amené d'Éphèse jusqu'ici à Istanbul? Est-ce que c'est ça? Il dit oui, ça a été transporté jusqu'ici. Alors, ce morceau de roche qui était autrefois une représentation de la déesse Diane dont il est question dans les Actes a été amené à Istanbul et maintenant ça a été présenté comme la Vierge Marie. Pour lui, c'était simplement drôle. Tout ce paganisme, toutes ces fêtes païennes, tous ces noms païens, toutes ces statues païennes font partie de ce que le monde appelle le christianisme, mais ce n'est pas le vrai christianisme. Alors, dans le christianisme moderne, ils ont toutes sortes de fausses idées. Aujourd'hui, ils observent dimanche, le jour du soleil. En anglais, c'est Sunday, jour du soleil. Et ça remonte longtemps avant le Christ, l'adoration du soleil. En 325, après le Christ, Constantin a changé le sabbat au dimanche. Et à ce moment-là, les païens adoraient déjà le soleil. Et c'est devenu l'adoration du jour du soleil, le Sunday. Alors, ils ont changé le sabbat au dimanche. Ils ont changé ces choses-là. Ils ont introduit les fêtes païennes. Ils ont mis des noms chrétiens dessus. Vérifiez ces choses-là dans l'histoire. C'est reconnu. Ça peut être prouvé. Nous avons une brochure sur les jours saints, décrivant le plan de Dieu. Nous avons une autre brochure intitulée « La restauration du christianisme apostolique ». Vérifiez ces choses-là. Prenez la peine d'étudier ces brochures-là. On a une brochure aussi qui s'appelle « Le christianisme contrefait de Satan ». Vous qui êtes nouveau avec nous, et même vous les anciens, reprenez ces études-là. Fortifiez votre foi. Vérifiez ces choses-là. Le christianisme dans le monde est faux. Il a été imbu par toutes les faussetés amenées par Satan et qui sont drainées à partir du paganisme historique ancien. Les gens observent le dimanche, observent les Pâques et ne voit pas le Christ comme le chef suprême de l'Église. Il ne voit pas le Christ comme celui qui va revenir en tant que roi des rois, des seigneurs des seigneurs, qui va enseigner la même loi qu'il a donnée, les 10 commandements, y compris le sabbat. Il faut que vous prouviez ces choses-là. Il faut que vous voyiez vraiment ce que la Bible dit. Quel est le vrai christianisme? Que le Christ et les apôtres ont enseigné et ont vécu. Le Christ et les apôtres originaux ont magnifié la loi de Dieu et les enseignements de l'Ancien Testament. Est-ce que ce qui était écrit dans l'Ancien Testament est païen? Non. Qui a donné ça? Le Christ a inspiré l'Ancien Testament. 1 Corinthiens 10, verset 4. Le Christ était le rocher qui suivait Israël. C'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui a donné le sabbat, qui a institué le sabbat. C'est lui qui a institué les jours saints. C'est lui qui a, de sa voix, tonné les 10 commandements sur le mont Sinaï et qui a dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi ». Il était Dieu, parlant en son nom et au nom de son Père. Il a dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Voilà le vrai paradigme du vrai christianisme. C'est contraire à ce que vous avez appris et à ce que j'ai appris dans les religions du monde. Il faut prouver les choses. Les lois spirituelles de Dieu et ses fêtes n'ont pas été clouées à la croix ou abolies. Elles ont été magnifiées. Dieu a enseigné les mêmes choses à ses serviteurs, à Abraham, à Noé, à Isaac, à Jacob. Dieu est venu dans la chair humaine en tant que Jésus-Christ pour donner sa vie. À ce moment-là, le fait d'offrir des victimes animales représentant le sacrifice de Christ, ça, c'était aboli. Alors, le Christ va revenir en tant que roi des rois et les gens se verront enseigner les vraies lois de Dieu. Et le quatrième commandement, où il est dit « Rappelez-vous le jour du sabbat ». Dans les 10 commandements, il y a juste un commandement où Dieu dit « Rappelez-vous, souvenez-vous ». Parce que Dieu ne veut pas qu'on oublie ce jour-là. Il dit « Rappelez-vous le jour du sabbat ». Souvenez-vous du jour du sabbat pour le garder saint. Est-ce que vous pouvez garder de l'eau froide chaude? Non, il faut que ce soit chaud au point de départ pour le garder chaud. Le sabbat est saint et on le garde saint. On le garde parce qu'il est encore en vigueur, tout simplement. Dieu nous dit de faire ça et le Christ l'a fait lui-même. Il nous a donné cet exemple. Il nous a dit de marcher sur ses traces. Sur ses traces. Il nous faut observer ces choses-là. Il est notre maître, il est notre enseignant, il est notre dirigeant et il est le chef du gouvernement de Dieu qui sera établi sur toute la terre, basé sur les lois de Dieu. Et il est aussi, le Christ, notre souverain sacrificateur. On peut s'imaginer le Christ à côté de Dieu sur son trône. Il est celui qui intercède pour nous. Allons à Hébreux chapitre 4, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 14. Paul écrit ici, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, le Christ est notre souverain sacrificateur, il est assis à la droite de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. » Comprenons ça comme il faut, frères et sœurs. Certains ne comprennent pas ça. Quand je ne connaissais pas le vrai Dieu, je ne comprenais pas ça. Je m'imaginais que Dieu était loin, qu'il était un esprit, qu'il ne nous comprend pas. Et il nous comprend. Le Christ nous a créés. Et le Christ est venu dans la chair humaine. Il a vécu dans la chair pendant 33 années et demie. Et il nous a donné l'exemple. Il a été capable de ne jamais pécher et de vivre selon les lois de Dieu. Et c'est lui qui vit en nous si nous avons son esprit maintenant. Le Christ nous comprend. Verset 15, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Le Christ a été tenté de toutes les façons imaginables, tout comme nous. Mais il n'a pas péché. Bien sûr, il avait des pulsions. Écoutez, lorsqu'on a voulu le jeter en bas d'une falaise au début de son ministère, il avait 30 ans, il était solide physiquement. Il était en bonne condition physique. Il devait avoir beaucoup de muscles, une bonne musculature. Et quand ces gens-là ont voulu le jeter en bas de la falaise, il aurait pu en entraîner deux avec lui, peut-être. Comment est-ce qu'il a réagi? Est-ce qu'il les a frappés? Non. Il a été tenté, mais il n'a pas réagi. Il a vu les belles filles qu'il y avait là à l'époque. Les gens étaient en santé à ce moment-là. Ils étaient sûrement très beaux. Les gens mangeaient bien. Ils prenaient beaucoup d'exercices. Donc, il y avait de jolies filles autour. Et il avait sûrement des pulsions par rapport à ça, des tentations. Mais il savait qu'il était marié à Israël et qu'il était venu pour mourir. Alors, avec l'Esprit de Dieu, il a contrôlé ses pulsions et il a utilisé son énergie. Il a utilisé toutes les énergies en lui pour servir le peuple de Dieu et pour accomplir la mission qu'il avait déterminée d'accomplir. Il a rejeté la convoitise. Il a vaincu. Alors, il peut nous comprendre. Il nous comprend, croyez-moi. Alors, nous avons un souverain sacrificateur qui est au trône de Dieu et qui nous comprend. Verset 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » On peut aller au trône de Dieu, notre Père, et lui parler à cœur ouvert. On peut parler même au Christ aussi. On peut parler directement au Christ parfois. La plupart du temps, on parle au Père. On parle toujours en son nom, au nom du Christ, bien sûr. On peut lui demander son aide pour vaincre toutes nos faiblesses. Dieu nous comprend. Le Christ intervient pour nous auprès du Père. On peut lui demander, aide-moi à vaincre mes faiblesses, mes convoitises ou quoi que ce soit. Ça fait partie du vrai christianisme. Un autre aspect, allons à Éphésiens chapitre 1, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 19. C'est une longue phrase ici. Paul écrivait parfois de longues phrases compliquées. Verset 19, il parle ici de la puissance de Dieu, de la grande puissance de Dieu. « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a mis toutes choses sous ses pieds. Toutes choses. Et il l'a donné pour être le chef suprême à l'Église. Le Christ a une Église. Et le Père a mis le Christ en charge de cette Église. Alors, le Christ est au-dessus de nous, de tous les aspects de l'Église, des programmes jeunesse, de l'administration de l'Église, du domaine de la publication, du domaine de la diffusion de nos émissions de télévision, et ainsi de suite. Nous ne faisons pas d'erreurs. Nous faisons des erreurs. Il nous arrive parfois de faire des erreurs, comme c'est arrivé à M. Armstrong. Nous ne sommes pas parfaits, personne. Et comme je dis parfois, on ne veut pas faire les erreurs que M. Armstrong a fait. Ne répétons pas ces erreurs-là. Nous allons faire nos propres erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu ne nous laisse pas faire d'erreurs graves ou sérieuses qui pourraient mettre l'Église en péril. Dieu n'a pas permis que M. Armstrong fasse d'erreurs majeures. Le Christ a guidé son Église et va continuer à la guider. Il est le chef suprême de l'Église, qui est son corps, verset 23, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, le Christ a une Église. C'est lui la tête de l'Église et nous sommes les membres. Il nous bénit. Il travaille à travers nous, chacun de nous qui travaillons ensemble. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le Christ est le chef vivant de l'Église. C'est sa responsabilité de guider l'Église à travers le monde. Allons à Actes chapitre 9, s'il vous plaît. Actes chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 19. Lorsque Paul a été rendu aveugle, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et vous vous rappelez, juste un peu avant ça, Le Christ avait jeté Paul en bas de son cheval. Paul était tombé à terre. Il lui avait dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Le Christ lui avait dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi et entre dans la ville. Fais ce qu'on va te dire de faire. » Le Christ dirige son église. Nous avions avant ça notre quartier général à San Diego, en Californie, un endroit magnifique, mais le propriétaire de l'immeuble que nous louions à ce moment-là augmentait chaque année le coût du loyer. Ça devenait très lourd pour l'église. Alors, nous sommes déménagés en Caroline du Nord et nous avons acheté l'édifice sur la rue Crown. Nous avons acheté un édifice pour la moitié du prix. Alors, Dieu a guidé ce qui se passait. Le Christ est en charge. L'année que nous devions déménager, Dieu nous a bénis. À ce moment-là, précis, il y a un homme en Iowa qui s'appelle Raymond Jergensen. C'est un célibataire qui avait une grande ferme. Son frère était mort avant lui et il nous a donné à l'église sa ferme, tout l'équipement de ferme, toutes les bâtisses, tout ce qu'il avait. Ça représentait plus de 900 000 $. Nous avions besoin de cet argent pour déménager en Caroline du Nord et acheter l'édifice où nous sommes. Le Christ savait que nous avions ce besoin et il a pourvu à ce besoin. Si nous servons Dieu de tout notre cœur, Dieu va nous guider, il est en charge, il va faire les choses pour nous donner de finir le travail. Il faut avoir la foi. Un autre aspect du christianisme, le Christ est notre souverain sacrificateur. Le Christ est notre sauveur vivant. C'est une chose très importante. Il faut saisir cela. Un chrétien, ce n'est pas simplement quelqu'un qui croit à Jésus-Christ. La plupart des protestants pensent ça. Jacques a écrit, « Vous croyez en Dieu, vous faites bien. » Même les démons croient en Dieu et ils tremblent. Vous pouvez croire en Dieu, mais ne pas lui obéir. C'est une chose de croire en Dieu, mais c'est une autre chose complètement différente que de soumettre notre vie à Dieu et de lui obéir. Allons à l'évangile de Jean maintenant, chapitre 14. Jean, chapitre 14, à partir du verset 20. Jean 14 et le verset 20. En ce jour-là, Jésus qui parle, « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Comment le Christ est-il en nous? Aujourd'hui, il est en nous par son Saint-Esprit. Il vit sa vie en nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Voyez-vous? Il nous faut vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment? En faisant ça, « Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Dieu vivra en nous par son Saint-Esprit. Mon passage préféré des Écritures, c'est Galates 2, verset 20. C'est le verset biblique qui décrit le mieux le fondement de la vie chrétienne, de la vraie vie chrétienne. Il est écrit, c'est Paul qui dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Lorsqu'on passe par les eaux du baptême et qu'on est purifié de notre vie passée, on dit « J'ai été crucifié avec Christ. » Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus mon ancien moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Le Christ vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi. Je vis par la foi du Fils de Dieu. Voyez-vous, pas ma foi, mais je demande la foi du Christ. Je vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous faites confiance à Dieu. Sa façon de vivre fonctionne et vous lui demandez de vivre en vous. Est-ce que le Christ vivrait une vie différente de celle qu'il a vécue? Est-ce qu'il observerait des jours différents de ceux qu'il a observés? Non, le Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement, comme c'est marqué dans Hébreux 13, verset 8. Voilà le fondement de la vraie vie chrétienne. Nous devons avoir une attitude de vouloir donner toute notre vie au Christ, de vivre intensément, que ce soit notre priorité de nous préparer pour le monde à venir. Apocalypse 2 maintenant, Apocalypse 2 et le verset 26, c'est le Christ qui parle ici. Apocalypse 2 et le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les paîtra. Celui qui vaincra, il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Le Christ revient bientôt en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ceux d'entre nous qui soumettent toute notre vie à Dieu et qui seront vainqueurs par sa puissance et qui sont fidèles, nous allons régner dans le gouvernement de Dieu. Nous allons assister le Christ en tant que fils et filles spirituels de Dieu. Et nous allons enseigner la vraie voie de vie heureuse aux êtres humains pour qu'ils connaissent la prospérité et le bonheur comme jamais auparavant. Allez à Apocalypse 5 et le verset 9. On parle ici de la prière des saints. Ils, les saints, chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu, en parlant du Christ, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et Dieu travaille avec nous actuellement pour que nous devenions ses saints, pour que nous devenions ses rois, sous le roi des rois, pour régner dans le monde. Mais il faut que déjà le Christ règne sur nous et que nous soyons soumis à sa façon de vivre et à ses voies. Tu as fait d'eux, de nous donc, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront au ciel? Non. Et ils régneront sur la terre. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre, sous la direction de Jésus-Christ. Voilà en quoi consiste le vrai christianisme. Voici qui est le vrai Christ, notre sauveur, notre souverain sacrificateur. Il est notre exemple. Il vit sa vie en nous. Il est le chef suprême de l'Église. Il est le roi qui vient bientôt, très bientôt. Il faut faire notre part dans l'œuvre aujourd'hui. Il nous faut vaincre nos faiblesses avec l'aide de Dieu pour devenir des fils de Dieu à part entière. Notre récompense sera extraordinaire. Nous allons être nés de Dieu. Nous allons naître de Dieu au moment de la résurrection. Nous allons être ses enfants à jamais. Notre récompense est devant nous et c'est merveilleux. Croyons ces choses-là, prouvons-les et suivons le Christ, imitons-le, laissons-le vivre sa vie en nous par son Saint-Esprit pour que nous accomplissions le but pour lequel nous avons été créés et le but pour lequel nous avons été appelés.